Et nous sommes le mardi 4 juin. Bonjour à tous. Bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiron, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, gros bug hier soir du site impots.gouv.fr. Beaucoup trop de contribuables ont essayé de faire leur déclaration de revenus en ligne. Résultat, écran noir et un délai de 48 heures accordé à tous les retardataires. On voit ça après les autres titres, Agnès.
Le repreneur britannique Daskoval attendu de pied ferme par les salariés de Saint-Saulve aujourd'hui. Recherche entreprise pour contrat en alternance, le parcours du combattant des jeunes candidats à ce type de formation. Des témoignages rares d'habitants d'Idlib sous le feu des bombardements du régime syrien. Et puis à 3 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine de foot, nous avons retrouvé les pionnières de Reims.
Et les invités d'Inter ce matin. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas.
7h50.
Marion Maréchal a raison, seule l'union des droites peut nous permettre de gagner en 2022. C'est ainsi qu'elle a salué dès dimanche soir la sortie très politique de la nièce Le Pen. L'union des droites, ce serpent de mer, elle y croit depuis toujours avec son mari Robert Ménard. Élue grâce aux voix, grâce au soutien du Front National, elle est députée sans étiquette. Emmanuel Ménard sera notre invité à 7h50.
Et à tout à l'heure, à 8h20, les déserts médicaux, la fusion des minima sociaux et la situation politique française. C'est Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, qui est l'invitée du grand entretien de la matinale aujourd'hui. Vous pourrez évidemment dialoguer avec elle. Le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter. Que faisiez-vous hier soir? La réponse pour 4 millions d'entre vous est « je tentais de remplir ma déclaration de revenus en ligne ». Tentative souvent vaine car cet afflux de connexions à la dernière minute a fait bugger le site des impôts. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics a donc décidé d'accorder un délai supplémentaire de 48 heures aux habitants des départements du numéro 50 à ceux d'outre-mer qui ont donc jusqu'à jeudi 23h59 pour remplir le formulaire en ligne. Retour sur les raisons de cette surchauffe avec Gérald Darmanin.
Les 4 millions de nos compatriotes qui sont connectés, si j'ose dire, au dernier moment pour remplir leur feuille d'impôt, sans doute l'effet de ce beau week-end ensoleillé, l'effet aussi de l'augmentation du nombre de gens qui télédéclarent leurs impôts, parce que c'est très pratique, et aussi sans doute un peu de procrastination. Donc on a jusqu'à jeudi minuit pour déclarer ses impôts. Essayons de ne pas tous les déclarer jeudi dans la soirée, parce que sinon on risque d'avoir à peu près le même problème. Mais la vérité, c'est que plus de 3 millions de personnes qui se connectent en même temps, évidemment, c'est un peu la rançon de la gloire et de la simplicité de la déclaration d'impôt par Internet. Ça bug.
Vous n'avez pas encore identifié le problème? Il vient quoi? Il vient de l'informatique
Oui, il vient de l'informatique et de la portabilité du site. On a dans les outils informatiques de la Direction générale des finances publiques surtout une envie de ne pas partager nos données, ces données fiscales des Français, de pouvoir protéger contre des attaques extérieures. Et au bout d'un moment, le site, il se protège lorsqu'il trouve des choses anormales et lorsqu'il y a des millions de connexions en quelques minutes. Évidemment, ce site se protège.
Un propos recueilli par Frédéric Carbone. Et comme tout le monde a le droit de se tromper, Gérald Darmanin lance aujourd'hui un site internet consacré au droit à l'erreur, baptisé Oups. Le site va aider les Français dans leurs démarches administratives les plus courantes. Un site oups.gouv.fr.
Il est 7h04, Agnès. Les salariés d'Ascoval attendent des explications.
Des salariés très inquiets depuis l'annonce de la faillite au Royaume-Uni de la maison mère de British Steel, censée reprendre la série de Saint-Saulve dans le Valenciennois. Le repreneur, sauf surprise de dernière minute, est attendu sur le site dans la journée. Après de nombreux espoirs déçus, les salariés Maxime Debs espère obtenir des réponses concrètes.
Éreinté, fatigué, en colère à l'instar de ses collègues, du repreneur Nassim Bardi, délégué syndical CGT, ne veut pas de belles paroles, ça non. Il y en a eu bien assez dans ce dossier.
Ils nous disent les choses clairement. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi ils nous avaient dit qu'il n'avait pas de soucis financiers? Or, s'il a des soucis financiers, qu'il nous explique maintenant comment on va faire.
Comment faire lorsqu'une maison mère se retrouve en situation de faillite, que des millions ont été promis pour la reprise d'un site et que des salariés à bout ne demandent qu'à travailler? Recevant les syndicats à Bercy il y a 10 jours, Bruno Le Maire avait fait de leur cas et de leur état une priorité.
Le vrai sujet, c'est de rassurer les salariés d'Ascoval.
Voulant tout sécuriser, la CGT a missionné un avocat, Fyodor Rylov, qui a décidé de saisir la justice en référé pour s'assurer de la crédibilité de cet énième repreneur, être réellement sûr de ses intentions.
Monsieur le maire, Monsieur Macron leur disent « Cette fois-ci sera la bonne, nous avons trouvé un repreneur qui permettra le redressement du site. » Et quelques jours plus tard, les salariés apprennent que ce repreneur est en faillite. Bon, qu'on nous donne l'ensemble des éléments qui feront la preuve qu'il y a la possibilité, dans la stratégie de ce repreneur, de fournir de la production à cette usine.
Un syndicaliste de conclure, si d'aventure la reprise tombait à l'eau, on ne manquerait pas d'aller frapper aux portes des responsables, assure-t-il, de ce qu'il conviendrait de qualifier dès lors de gigantesque mascarade.
Dans ce contexte, une bonne nouvelle pour la France. Désormais, deuxième pays le plus attractif en Europe derrière le Royaume-Uni, mais devant l'Allemagne. C'est le résultat du baromètre annuel réalisé par le cabinet Ernst & Young. Dominique Seux reviendra en détail sur cette étude à 8h moins le quart. Le parti Les Républicains va lui tenter de relancer son pouvoir d'attractivité. Première étape ce soir avec une réunion des cadres autour de Gérard Larcher. Dans un entretien au Figaro ce matin, Laurent Wauquiez revient sur sa démission. « J'ai vu, dit-il, le danger du retour de la guerre des chefs. Prendre du recul me fera sûrement du bien. » Mais fidèle à sa ligne très conservatrice, il met en garde contre la perspective d'un grand parti tout mou de centre-droite. À qui appartient la belle villa de la Palmeraie de Marrakech? Question au cœur des débats hier au procès Balkany. Patrick Balkany a lui-même changé à plusieurs reprises de version. Il soutient à présent avoir aidé un riche homme d'affaires à trouver une planque pour se protéger du royaume saoudien. Compte rendu d'audience signé Sarah Guibaudot.
Le discret Arnaud Claude regrette sa notoriété d'ancien associé de Nicolas Sarkozy et ami de Patrick Balkany. S'il a aidé le bras droit du maire à acheter la villa, c'était par amitié, dit-il, mais je n'ai servi à rien. Le président montre un fax signé de sa main. J'étais en vacances sur un bateau. L'a-t-il dicté à son assistante? Même pas. Mon téléphone était tombé à l'eau. Alexandre Balkany, qui a fait fortune dans les émissions de poker, se présente toujours comme le locataire. Pas un bail fictif pour aider ses parents, non. Il y avait aussi des peignoirs à mes initiales dans la maison. Il ne connaissait pas le propriétaire, mais il ne réclamait pas les loyers en retard. Enfin, Patrick Balkany, il ne l'a jamais dit au juge d'instruction, mais il serait donc parti en mission secrète, trouver au Cheikh Al-Jaber une planque avant qu'on lui coupe la tête en Arabie Saoudite. « Mon épouse a même fait quelques emplettes, la fameuse livraison de meubles. Il fallait bien que ce soit habitable. » En revanche, Al-Jaber n'y est jamais allé et aurait offert à Patrick Balkany d'en profiter. « J'ai voulu régulariser en demandant à mon fils de la louer. Voilà, monsieur le président, c'est tout simple. »
Les cheminots dans la rue aujourd'hui appellent à la mobilisation lancée par 4 syndicats un an après la réforme ferroviaire, une réforme qualifiée de nuisible et mal préparée, responsable de la dégradation du climat social selon les 4 syndicats, la CGT, l'UNSA, Sudrail et la CFDT. Les perturbations devraient être limitées.
Il est 7h08, Agnès, Londres et Berlin demandent une réunion ce soir du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Soudan.
Les opposants qui campaient depuis plusieurs semaines devant le quartier général à Khartoum ont été chassés par la force. Au moins 30 personnes ont été tuées et on compte des centaines de blessés. Le Conseil militaire de transition a ensuite annulé tous les accords passés avec les contestataires, tout en annonçant la tenue d'élections dans un délai de 9 mois. Nous y reviendrons dans le journal de 8 heures. Inquiétude également de la communauté internationale sur le sort des civils d'Idlib, dernier bastion rebelle au nord de la Syrie. Une population qui tente de fuir et qui subit des bombardements quotidiens. Aurélien Colli a pu joindre plusieurs habitants via les réseaux sociaux.
Pas de trêve hier dans le sud de la province d'Idlib. Abdelaziz El Adjani est à Kourine, à une quinzaine de kilomètres des zones visées depuis fin avril par le régime et son allié russe. Il n'y a pas un jour sans un bombardement. À peu près tous les villages du sud ont été touchés par des roquettes, des missiles ou des barils explosifs. Tous les jours, des civils sont tués, explique cet opposant, membre de la commission politique d'Idlib. Après 40 jours de pilonnage du régime, 200 villages auraient été touchés, 25 centres de santé bombardés. Le bilan dépasserait les 500 morts, plusieurs centaines de blessés et 300 000 déplacés qui ont fui les frappes en remontant vers le nord, déjà saturé par les réfugiés. C'est le plus gros mouvement de population depuis le début de la guerre. C'est un désastre. Deux tiers des déplacés n'ont pas d'abri. Ils sont dans les champs, sous les arbres, explique le docteur Mohamed Ratoub de l'ONG SAMS, qui, avec d'autres organisations syriennes, appelle solennellement le Conseil de sécurité de l'ONU à agir pour faire cesser la violence et trouver une solution politique à Idlib. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Donald Trump poursuit sa visite d'État à Londres. Après un dîner à Buckingham Palace aux côtés de la reine, le président américain doit rencontrer ce matin Theresa May, le maire de Londres, Sadiq Khan, que le président américain a qualifié de loser total hier, a autorisé une manifestation anti-Trump aujourd'hui dans la capitale britannique. Un ballon caricaturant Trump en bébé joufflu et colérique devrait ainsi voler dans le ciel londonien.
Il est 7h10, des milliers de jeunes sont actuellement à la recherche d'entreprises pour les accueillir à la rentrée en alternance.
Car ils sont de plus en plus nombreux à choisir ce type de formation. 300 000 nouveaux contrats signés chaque année. Le plus dur est souvent de trouver la boîte qui accepte de les accompagner. Pourtant, les jeunes sont prêts à déménager ou à changer de formation pour trouver une alternance. C'est ce que révèle une enquête de Studirama et Sonia Princé a rencontré une jeune Toulousaine dans ce cas.
Pour l'expérience et pour une meilleure insertion professionnelle, ce sont les raisons qui poussent les jeunes, et en particulier Amélie, à choisir l'alternance bien plus que l'aspect financier.
Ça va me permettre de trouver un emploi plus facilement pour ma vie future, je pense. Et puis je voulais vraiment acquérir de réelles compétences le plus tôt possible.
Cet élève de terminale va entrer en licence d'économie-gestion à Toulouse et comme les trois quarts des jeunes interrogés par Studirama, elle serait prête à déménager pour trouver une entreprise.
Ah oui, je l'aurais fait. J'aurais été prête à déménager. Par rapport au trajet pour aller à l'école et faire l'alternance aussi, ça aurait été beaucoup plus simple. Et puis avoir tout à proximité et pas faire d'aller-retour, c'est beaucoup moins contraignant.
Mais pour l'instant, Amélie n'a reçu aucune réponse positive. La recherche s'avère difficile pour 84% des jeunes.
C'est très difficile. Le recrutement est assez compliqué et je reçois beaucoup de refus. Certains répondent en disant que c'est parce qu'ils cherchent des personnes en deuxième année ou en troisième année qui ont déjà de l'expérience et du coup ils veulent pas les premières années, ou sinon c'est parce que j'ai pas eu d'expérience avant dans un vrai travail, des choses comme ça.
Actuellement, plus d'un tiers des étudiants a déjà envoyé plus de 20 candidatures. Les deux tiers ont décroché au moins un entretien.
J-3 avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine de foot en France. 24 équipes, 52 matchs dans 9 stades différents, dont celui de Reims. Et la cité champenoise n'a pas été choisie par hasard. C'est là qu'en 1968 est née la première vraie équipe féminine de foot de l'histoire moderne. Récit signé Cédric Langrocht.
Le premier à avoir eu l'idée de faire jouer des femmes s'appelle Pierre Geoffroy, journaliste au quotidien régional L'Union. Il cherche des attractions pour animer le tournoi du journal. Un entrefilet, recherchons femmes qui jouent au football. Il n'échappe pas à Ghislaine Royer-Souef, 15 ans à l'époque.
Je vais m'inscrire et 2 mois après, on fait notre premier match en levée de rideau, le RAS Valenciennes.
Après ces 2 mois d'aventure commune, l'histoire est censée s'arrêter là. Richard Gault, le premier entraîneur des pionnières de Reims.
Avec Pierre, on se dit, mesdemoiselles, c'était bien, on est content de vous avoir entraîné. Et ces jeunes filles, elles se disent non, pas question, nous on veut continuer.
Et voilà donc le point de départ de cette aventure qui va durer une dizaine d'années, toujours sous la houlette de Pierre Geoffroy, aujourd'hui décédé. Grâce à son réseau, l'équipe se fait connaître dans toute la France, si bien qu'en 1970, après avoir freiné des quatre fers, la Fédération française reconnaît le football au féminin. Les pionnières se mettent à voyager.
La première année, nous partions au Tchécoslovaquie, en Angleterre, en Italie, et c'est nous qui avons amené le football féminin aux États-Unis. C'est incroyable.
Sans gagner le moindre sou sur leur congé payé, ces joueuses vont donc tout simplement écrire l'histoire.
On a ouvert le chemin et j'espère que la route maintenant, elle ira au bout du monde.
Et le coup d'envoi de cette Coupe du Monde, c'est donc vendredi, la France contre la Corée du Sud au Parc des Princes.
Merci Agnès Soubiran.